Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour une nouvelle émission des Messagers du Cheval. Une émission proposée par Michel Clément et Virginie Boer. Avec la levée progressive du confinement, j'espère que nous allons bientôt pouvoir retrouver Michel. Mais en attendant, je vous propose aujourd'hui une émission consacrée à la musculature du cheval. En effet, quand on s'occupe de chevaux et qu'on les monte, il est important de bien comprendre comment leurs muscles fonctionnent. Il existe trois types de muscles. Les muscles du squelette, qui relient les os entre eux, les muscles lisses, comme ceux de l'œsophage, qui ne sont pas contractés volontairement, et le muscle cardiaque. Alors, pour vous donner une idée, le cœur du grand champion américain en course de galop Secretariat pesait 10 kilos. L'ensemble des muscles du squelette représente 45% du poids du cheval, voire 55 à 60% chez certaines races, comme les pur sang. C'est plus que le poids des os. Les muscles du squelette assurent la locomotion du cheval. Ils protègent le squelette en absorbant et dispersant la force du choc. Alors, il existe différents types de muscles du squelette que l'on peut diviser en plusieurs catégories. Les muscles de l'encolure, de l'épaule, du poitrail et du dos. Les muscles de la queue. Enfin, les muscles de la croupe et de la partie inférieure des postérieurs. Alors, il faut rappeler que le cheval n'a pas de muscles sous le genou, qui, rappelons-le, correspond au poignet chez l'homme, et ni sur le jarret, mais uniquement de la peau, des os, du cartilage, des tendons, des ligaments et bien sûr des poils. Mais par contre, l'oreille du cheval comprend 16 muscles, ce qui lui permet de bouger et de faire des rotations de 180 degrés. Les muscles sont doués d'élasticité et de tonicité. Et ils peuvent se contracter. Lorsqu'ils se contractent, un muscle peut se raccourcir jusqu'à un tiers de sa longueur. Grâce à leur élasticité, les muscles protègent le cheval des ruptures lorsqu'il est allongé au maximum. Grâce à sa tonicité musculaire, le cheval peut rester debout sans se fatiguer. Alors, pour éviter des fatigues musculaires, voire des accidents plus graves, il faut faire attention à entraîner correctement son cheval. Tout organisme qui travaille augmente sa température. Après une séance de galop, la température du cheval peut monter à 40 degrés, alors qu'elle se situe en général entre 37,5 et 38,2. La fatigue est liée à l'intensité de la contraction et peut entraîner des blessures plus ou moins graves qui sont difficiles à diagnostiquer car elles peuvent s'accompagner ou évoquer des problèmes liés au squelette, des blessures du tendon ou des ligaments. Pour bouger, pivoter, galoper, mâcher, le cheval peut compter sur environ 700 muscles. Alors, je tiens à préciser que ce chiffre, que j'ai trouvé dans de très nombreuses publications vétérinaires anglo-saxonnes, diffère de celui que l'on trouve sur des sites français qui estiment, eux, le nombre des muscles entre 469 et 480. Alors, ces muscles sont reliés aux os grâce à des tendons qui leur permettent de se contracter et de s'étendre. En dehors de l'os, qui constituent environ les trois quarts du poids des muscles squelettiques, ces tissus sont principalement constitués de protéines et se renouvellent constamment. Alors, pour comprendre comment ils fonctionnent, je vais reprendre les explications de la vétérinaire américaine Stacy Hawke qui nous fait une intéressante comparaison. Donc, on peut comparer la structure d'un muscle à un chargement de poteaux de téléphone posé sur le plateau d'un camion. Le plateau est l'équivalent d'un os chez le cheval et les poteaux forment un seul muscle allongé sur l'os. Tout le chargement ne forme qu'un seul muscle et chaque poteau représente une seule fibre musculaire. Maintenant, il faut imaginer que chacun des poteaux contient des centaines de milliers de poteaux très fins qu'on appelle les myofibrilles et ce sont elles qui font fonctionner le muscle. Une membrane cellulaire, qui enveloppe les cellules du muscle et permet au poteau de s'allonger, joue un rôle très important dans la contraction musculaire. Les myofibrilles sont constituées de deux protéines principales, l'actine et la myosine. Ces protéines, qui sont longues et droites, comme des filaments, reposent l'une sur l'autre et se croisent avec des petites projections qui ressemblent à des doigts provenant de la molécule d'actine. Quand les muscles se contractent, les projections d'actine marchent ou courent en fonction de la vitesse de la contraction musculaire, en même temps que les molécules de myosine qui raccourcissent les fibrilles. Il faut donc imaginer que ces poteaux téléphoniques sont comme des accordéons. Quand ils se déploient, le muscle est relâché. Quand ils sont fermés, le muscle est totalement raccourci et contracté. Prenons l'exemple du muscle semi-tendineux qui se situe sur la cuisse postérieure. C'est un très grand muscle que l'on peut voir à l'œil nu et qui permet au cheval de faire des mouvements rapides et énergiques. Il part du pelvis, descend l'arrière du fémur, là où repose la queue, et s'insère dans la région supérieure du tibia, cet os long qui va du gracet jusqu'au jarret. Au point d'insertion, le muscle se transforme en tendon afin d'avoir une attache solide à l'os. Quand le muscle tendineux se contracte sous un poids, ce qui peut être celui d'un cavalier, la hanche, le gracet et le jarret s'étendent vers l'arrière, entraînant la propulsion. Lorsque le muscle ne porte pas de poids, la contraction semi-tendineuse entraîne une flexion du gracet, une rotation vers l'extérieur du gracet et un mouvement vers l'arrière, comme lorsque le cheval rue. Alors une question se pose. Quand les fibrilles d'actine et de myosine, donc ces fameuses protéines responsables de la contraction musculaire, quand savent-elles qu'il faut faire agir le muscle? Eh bien, c'est le système nerveux central qui va les aider. En effet, les nerfs qui partent de la moelle épinière sont connectés au muscle en passant par ce que l'on appelle la plaque motrice. Le cerveau va envoyer un signal aux nerfs et tout un dispositif se met en place pour arriver jusqu'aux cellules de la membrane musculaire. Tout cela se produit tellement vite que le cheval n'a même pas conscience d'avoir pris la décision de bouger. Il se crée ensuite tout un flot d'énergie qui va libérer du calcium dans les cellules musculaires, stimulant les protéines, entraînant les myofibrilles et tous les muscles à se contracter. Bon alors, j'en ai fini avec le plus dur de la présentation, j'espère que vous êtes toujours encore là. Et nous allons maintenant nous accorder une petite pause musicale en écoutant We Are The Champions de Queen. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We and everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. notre émission consacrée à la musculature du cheval. Et nous allons maintenant parler d'énergie musculaire. Quand on regarde un cheval galoper ou sauter, on ne peut que constater qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire bouger ses muscles. Pour cela, il peut compter sur les cellules musculaires qui utilisent deux systèmes différents. Le premier utilise du phosphore pour créer de l'énergie, et notamment du phosphate. Le second utilise du glycogène, qui provient du sucre qui se trouve dans la nourriture et qui est stocké dans les muscles. Quand les cellules ont besoin d'énergie, elles transforment le glycogène en molécules de sucre qui vont subir plusieurs transformations jusqu'à obtenir de l'acide lactique, cette molécule responsable de la sensation de brûlure que l'on peut ressentir après un effort physique soutenu. Un cheval qui va être monté en compétition et à qui on va demander des efforts doit être bien préparé afin que ses muscles soient correctement oxygénés et que ses fibres musculaires soient endurantes. Alors quand on commence à travailler un cheval, sa fréquence cardiaque et la quantité de sang qu'il pompe à chaque battement cardiaque augmente, tout comme le nombre de globules rouges qui apportent plus d'oxygène dans le sang. En même temps, le système respiratoire augmente la quantité d'air dans les poumons. C'est là que l'oxygène se diffuse dans les veines. Celles-ci fournissent aux muscles un sang riche en oxygène. Alors, plus un cheval est en forme, plus son muscle cardiaque est fort. Et grâce à cela, et grâce à l'exercice, sa fréquence cardiaque se ralentira pour un même effort. Donc, on pourra constater que son cœur bat plus lentement après un entraînement régulier. Pour le même effort. La vitesse de contraction des fibres musculaires varie en fonction de celles-ci. Il existe plusieurs types de fibres musculaires. Les fibres rouges ou fibres lentes se contractent lentement, sans beaucoup de force, mais elles permettent au cheval de résister à la fatigue. Elles ont besoin de beaucoup d'oxygène et sont très adaptées à une discipline, par exemple comme l'endurance. Les fibres blanches ou rapides se contractent très rapidement, mais par contre se fatiguent vite. Elles sont adaptées à des disciplines comme le sprint. On voit bien, par exemple, en course hippique, que les chevaux qui courent sur des longues distances ne sont pas les mêmes que les chevaux qui courent sur de courtes distances, qu'on appelle effectivement le sprint. D'autres fibres se situent à l'intermédiaire des deux et vont permettre au cheval de s'adapter en fonction du type de travail fourni. Comme on peut le remarquer, chaque fois qu'on assiste à une course d'endurance équestre ou que l'on regarde des marathoniens humains courir, on va voir que ces sportifs ont un physique assez sec. En fait, ils ont plus de fibres rouges. Et on peut voir notamment que les chevaux d'endurance sont très différents des chevaux d'obstacle ou de dressage, beaucoup plus puissants, avec une masse musculaire parfois beaucoup plus marquée. Alors que eux sont extrêmement musclés, mais par contre ont ce physique très sec. Alors il va falloir adapter l'entraînement à son cheval et à la discipline pratiquée, en sachant que tous les chevaux ne sont pas égaux en ce qui concerne la répartition entre les différents types de fibres. Voilà pourquoi certaines races, comme les chevaux arabes, se révèlent mieux équipées pour fournir des efforts en endurance. Alors, il faut savoir également que le cheval ne récupère pas aussi vite que l'homme après des efforts physiques intenses. Nous, il nous faut entre 24 et 48 heures, alors que les muscles du cheval ont besoin de 48 à 72 heures pour récupérer complètement. Alors, en conclusion de tout cela, il faut noter que la génétique, l'alimentation et l'entraînement joue un rôle important dans la vie du cheval, notamment quand on fait des compétitions ou quand on fait des courses ou même des randonnées. Pour cela, le corps doit fournir des niveaux d'oxygène et des nutriments adéquats afin que les muscles puissent se contracter sans interruption. Voilà pour cette petite découverte de la musculature du cheval. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous pouvez consulter beaucoup de sites et beaucoup de livres qui vous apprennent quels sont tous les muscles du cheval et à quoi ils servent. Nous allons juste essayer ici de vous donner une petite idée. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Très bonne semaine à tous et puis nous espérons vous retrouver très vite. Au revoir.